Alors, un message que j'ai sur le cœur hein, depuis plusieurs mois, j'aimerais vous partager. Ce matin, c'est vous parler d'évangélisation. Les deux textes des Écritures que je vais vous lire se trouvent dans Matthieu, vous connaissez ces passages, Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le deuxième texte, c'est dans Luc, chapitre 10. Verset 1er. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70, 10 autres, et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur dit : la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. « Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Alors, ce n'est pas un scoop hein, que je vais vous dire ce matin. Pour la plupart, vous connaissez l'Évangile. Mais bon, une piqûre de rappel, ce n'est pas de mal de temps en temps. Voyons que Jésus, il envoya les 12, puis les 70. Et l'Église représente un peu ces 70 disciples. Alors, pour beaucoup de chrétiens, évangéliser, c'est pas un problème. Ils parlent de Dieu, ils témoignent de Jésus d'une manière tout à fait naturelle, un peu comme la respiration. Pour d'autres chrétiens, c'est plus compliqué. Ils aimeraient témoigner, mais ils savent pas par quel bout commencer. Et puis, certains ont de la crainte, voire de la timidité, la peur du qu'en dira-t-on si on me voit. En public, témoigner de ma foi, ah, le qu'en dira-t-on ? Alors ils se taisent. Pour d'autres chrétiens, ils pensent que notre pays est déjà christianisé depuis le deuxième siècle. C'est vrai, il y a eu des grands réveils en France. D'ailleurs, il y a un clocher dans chaque village et ville. Et même à chaque intersection, presque, sur nos routes de France, il y a des croix plantées un peu comme un drapeau. Est-ce pour autant que les Français sont chrétiens? Savez-vous que seulement 37% possèdent une Bible en France et 5% la lisent? Alors, trois points que j'aimerais développer avec vous. Pourquoi nous, chrétiens du 20e, 21e siècle, nous devons évangéliser? Pour trois raisons. Nous allons voir pour trois raisons. Puis, je dirais, c'est un peu la colonne vertébrale, le contenu du message. Et un troisième point, on en parle peu, c'est l'amour pour Jésus qui doit motiver nos actions. Bon, ça paraît évident. Je vous donnerai à l'issue un petit témoignage personnel. Alors, pourquoi évangéliser ? Ben, le défi est de taille. Vous savez que la population mondiale augmente à une vitesse grand B. Au début du XXe siècle, la population était de 2 milliards d'habitants en 1930. Puis 50 ans après, elle est passée à 4 milliards. En 1980, elle est passée à 4 milliards et demi. Je ne sais pas si tout le monde y voit. 50 ans après, puis après, tous les 20 ans, 2 milliards de plus, 6 milliards, 2024. À ce jour, l'ONU, les Nations Unies, estiment que nous sommes à plus de 8 milliards et demi, presque, d'habitants. Et sur les 8 milliards d'habitants, est-ce que vous savez le nombre de chrétiens qu'il y a ? Un tiers, c'était 2 milliards. 2 milliards et demi. Il y a du boulot, hein. ces chiffres nous montrent quoi ?
Eh bien que le nombre des inconvertis
surpasse celle des générations précédentes.
Et par conséquent, tout croyant est utile, nécessaire pour annoncer le Sauveur.
C'est la première raison.
La deuxième raison, quand Jésus était sur la terre pour décrire la condition spirituelle des gens, il employait le mot « perdu ».
Les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, sont perdus sans Christ.
C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Nous avons tous des besoins. Hein? Mais le plus grand des besoins, en haut de la pyramide, c'est le besoin spirituel.
Dans Acte 4, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés ». Jésus est venu dans le monde dans le seul but de sauver les pécheurs.
Alors, péché, pécheur, c'est pas un mot à la mode, hein, aujourd'hui.
Mais dans l'original, en hébreu, le mot péché, c'est celui qui manque la cible.
Et j'ai manqué la cible. Nous avons tous manqué la cible parce que l'homme, là je ne veux pas philosopher, mais nous avons fait de l'homme son propre Dieu.
Et en 1 Timothée 2, vous pouvez avoir la référence, verset 15, 1 Jean 4, verset 13 à 15. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu est amour. 1 Timothée 2, verset 3 à 6.
Et Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, il a affirmé lui-même, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Exclusif, hein, comme déclaration. Et pourtant,
vous savez, quand vous parlez de Dieu aux gens, que ce soit, vous avez peut-être l'occasion de parler sur votre lieu de travail, pendant la pause café, ou dans la rue, dans les transports, les gens, il y en a qui croient en Dieu, Jésus, oui, ils reconnaissent, bon, il a existé, comme d'autres grands hommes, il était bon.
Quand on parlait de miracles, là déjà ils ont un doute. Mais ils pensent que ils voient Dieu un peu comme en haut d'une montagne, il y a plusieurs chemins qui accèdent à cette montagne. Et peu importe le chemin qui est pris, pourvu que vous soyez sincère.
Alors comprenez qu'on ne peut pas concilier ces deux positions. La foi chrétienne, elle est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'une des positions est juste. C'est très fausse, puisque les deux, elles se contredisent.
Je suis le chemin et non un chemin.
D'après vous, à quoi aurait servi la mort de Jésus ?
Pourquoi Dieu aurait-il envoyé son Fils s'il y avait eu d'autres chemins pour aller vers lui ?
La troisième raison, c'est Dieu nous a choisis.
Pourquoi ?
Dans Jean 15, verset 16, Jésus a dit, je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit.
Jésus est l'homme Dieu envoyé du ciel.
Dans le prologue de Jean, il est dit que la parole a été faite chair. Elle vient habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette lumière, les hommes l'ont rejetée.
En Hébreux 2, verset 9,
nous voyons que Jésus goûta la mort pour tous. Il a, par conséquent, un droit sur nos vies, à tous, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Je reviens au passage de Matthieu 28 et Luc 10. Quand Jésus l'a dit à ses disciples et aux 70, « Allez !» Allez, il n'a pas parlé au conditionnel, que je sache. Le verbe est bien conjugué à l'impératif. Donc je crois que devant cette injonction, le grand commandement nous invite à l'obéissance. Amen. Vous avez entendu la main, hein? Alors un autre texte que je voudrais vous partager, c'est dans Romains 10, verset 14. L'apôtre Paul pose une série de questions
qui sont liées entre elles. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? On voit qu'au travers de ce passage, trois choses doivent se produire pour qu'une personne puisse parvenir au salut. Il y a un blanc, là-bas. Pour les deux, il faut toujours laisser des blancs. Si tu sais intervenir. C'est que quelqu'un lui parle de Christ. Donc, la référence Matthieu 28. La personne écoute le message. Elle invoque le Seigneur, croit et accepte ce qu'elle a entendu. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Je pense à l'apôtre Paul, qui lui-même a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Je pense qu'il a fait son lettre utile, hein, avec tous les voyages missionnaires qu'il a fait dans l'Asie, l'Europe. Et cette référence se trouve en 1 Corinthiens 9, verset 16. Le prophète Ésaïe lui-même a dit, plusieurs siècles avant, au chapitre 52, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce que vous avez de la joie quand vous annoncez Christ autour de vous? Ou c'est juste parce que le pasteur le dit, ou parce qu'il faut le faire? Alors, quel est ce message? Il est simple, mais capital. Le plan de Dieu, il est parfait. Je vais décliner en quatre points. Il veut nous donner la paix et la vie. Initialement, quand Dieu il a créé l'homme, il a créé à son image, Genèse chapitre 1. Puis, dans Genèse chapitre 1, verset 31, il a dit qu'il a créé l'homme parfaitement, moralement et physiquement. Et Genèse 3, il était en parfaite communion avec l'homme. Alors, le problème de l'homme, c'est la séparation. Pourquoi la séparation de Dieu? Mais Dieu est saint. Et l'homme, il a, comme j'ai dit, il a manqué la cible. Il a fait sa propre volonté. Il a voulu écouter et suivre la voix du diable. Alors, il y en a qui vont dire, Dieu, il a créé le diable. Non, Dieu, il n'a pas créé le diable. Satan, l'usurpateur, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Dieu l'a précipité. Il est devenu depuis l'adversaire de Dieu, puis notre adversaire. Donc, dans Romains 3, verset 23, Dieu nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Alors, quel est le remède? Eh bien, c'est la croix de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, il est dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Romains, l'Épître aux Romains nous dit, Paul, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre réponse, eh bien, c'est de nous donner à Dieu et recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Dans l'évangile de Jean, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Amen.
Mais cette promesse, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean 10,
qu'il est venu pour donner la vie aux brebis et la vie en abondance. Alors bien sûr, on peut développer tous ces versets, tous ces passages, mais quand on parle, quand on veut parler de Dieu, de Jésus, à nos contemporains, comme j'ai dit, dans la rue, sur notre lieu de travail, etc., en général, on a 3 minutes pour délivrer un message. On ne peut pas faire un exposé, faire l'apologie de la Bible. Hein. J'ai remarqué, on a 2-3 minutes. Alors vous avez 3 sortes de personnes. Les rebelles, qui ne veulent rien entendre.
Ils sont très vindicatifs.
Et puis, il y a les indifférents. Et puis, il y a ceux qui sont ouverts, qui veulent en connaître un peu plus. Mais même ceux-là, ils sont pressés. Ils vont au marché, ils ont un rendez-vous. Donc, il faut être... faut dire l'essentiel, être succinct et... Voilà. Donner l'essentiel. C'est pas de... Après, si la personne, elle est... intéressé, vous pouvez l'inviter à l'église, pour un café, discuter plus longuement, ou à l'Oasis, il y a des cours bibliques aussi, pour développer tous ces points. Mais je voudrais préciser que quand on parle de Dieu, de Jésus, souvent les personnes vont dédier la conversation, raconter leur vie. Donc il faut toujours ramener le message de la croix au centre. Le message de la croix, c'est l'œuvre salvatrice de la croix, c'est-à-dire le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Sans parler de la croix, c'est un message à l'eau de rose, excusez-moi. Hein ? Vous connaissez cette expression ? Le dernier point que j'aimerais vous parler, c'est de la passion pour Jésus qui doit motiver nos actions. Je prends l'exemple de ceux qui les supporters de l'OM, les footeux. Je ne sais pas si vous les avez vus, moi j'ai 30 ans de travail à Marseille, et quand je les voyais prendre le métro pour aller au stade de Vélodrome, ils étaient tous là à crier, et à l'OM, ils étaient tous furieux, pleins de joie, par tous les temps, les enfants, il y a un bas âge sur les épaules, la couverture. Je disais, Seigneur, quelle passion ils ont. Je peux comprendre la passion pour un sport. J'exerçais moi aussi les sports, mais en même temps, je me disais, Seigneur, pardon, parce que regarde cette passion qu'ils ont, et moi, quelle est cette passion? Je crois que c'est important de se remettre en question. Quand je parle de l'amour qui doit motiver nos actions, c'est vraiment être passionné pour Jésus. Et je crois que sans passion, eh bien, on va faire des choses peut-être par devoir, juste par lassitude aussi, par découragement, mais on le fait quand même. Et on doit renouveler cette passion pour Jésus. La passion pour Jésus, elle doit nous prendre dans nos entrailles pour que nous puissions déborder de cet amour et pour que nous puissions déverser cet amour autour de nous. Sans cet amour, les gens ne seront pas touchés. C'est pas de la théologie. J'ai rien contre la théologie. On a besoin aussi des docteurs. Mais le Seigneur, ce qu'il recherche avant tout, c'est le cœur disposé pour partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors je veux vous encourager. J'étais moi-même, je vous donnais un court témoignage, quand j'ai commencé, je ne me considère pas comme un évangéliste, mais j'essaye d'obéir en faisant comme Timothée, faire l'œuvre d'un évangéliste par amour pour Dieu. Et j'étais jeune marié, j'avais pas 30 ans, et dans notre petite église, on était sur les Chartreux, si vous connaissez le quartier des Chartreux à Marseille, on faisait de l'évangélisation, de l'air aussi. Puis moi j'étais là, j'avais de la crainte, un peu de timidité, et j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est pas mon don. Alors j'ai arrêté, et ça m'a travaillé. Je pense que c'est le Seigneur qui me travaillait. Il dit, mais Seigneur, je veux évangéliser, mais je n'arrive pas, il y a un problème, il y a un blocage, je suis dans la crainte. Et il m'a montré que je devais mieux me former dans sa parole, ce que j'ai fait un peu par la suite. Et
Il m'a dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et c'est ce qu'il veut nous donner à chacun d'entre nous. Vous le croyez ? Il y a eu des moments difficiles, c'est vrai que des fois on se fait insulter, surtout sur le port à Marseille. Bon, les gens ne sont pas tous comme ça. Mais des fois on peut être insulté, ça m'est arrivé. Et parfois des gens indifférents qui refusent un évangile. Et puis quand vous leur dites, vous voulez qu'on prie pour vous ? Alors des fois ils acceptent. Et là, en priant pour les personnes, une fois ça m'est arrivé, même d'autres fois. La personne, le Saint-Esprit me montrait en fait qu'il y avait la relation était brisée avec son père, parce qu'il buvait, il était dans la rue, et le Seigneur me montrait tout ça en image, et qu'il voulait le réconcilier avec son père. Et là, il a ouvert les yeux, il a accepté l'évangile, après on lui a donné une adresse pour aller dans une église, parce qu'il habitait les quartiers nord. À d'autres moments, j'ai rencontré un homme qui c'était un sataniste, un prêtre, un chef sataniste, qui m'a maudit, je ne dis pas les noms. Et moi, au plus il me maudissait, au plus je le bénissais.
Amen.
Je priais à voix forte, j'étais là-bas sur le pont, les gens ils s'arrêtaient. Mais moi, je voyais, c'est dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit a touché, parce que. Et il a touché cet homme. Il m'a demandé pardon à Dieu. Bon, par la suite, j'ai eu l'occasion de prier encore. Je ne sais pas s'il s'est converti, je ne l'ai plus revu après. Mais je lui parlais de l'apôtre Paul, qui était arrêté sur le chemin de Damas. Il me dit oui, mais Paul, il était sincère. J'ai entendu qu'il n'était pas sincère. Donc, il était tellement pris dans les ténèbres qu'il avait du mal à accepter. Vous savez, les satanistes, ils connaissent les Écritures. Serez-vous heureux, serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera à cause de moi ? Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande. Amen. Oui, en fait, c'est un peu un résumé. La passion pour Jésus, c'est évident, qui doit motiver les actions, 1 Corinthiens 16, verset 14. Et la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont mes pensées, mes motivations, mes sentiments qui vont me pousser à l'action. C'est important. Donc, envers Dieu, c'est le désir de lui obéir. Donc, je vais témoigner. Envers mon prochain, je veux l'aider. Hein? Pour qu'ils connaissent aussi le Sauveur, je vais témoigner. Le problème, c'est envers nous-mêmes. C'est ce que je vous ai dit, pour mon témoignage. Les motivations en conflit par rapport à la crainte, la timidité ou autre chose, qui vont faire que je vais me taire. Et Dieu, lui, il veut que nous puissions continuer l'œuvre qu'il a commencée avec les 12, les 70. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen.